Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà un passage que vous avez lu, j'imagine, bien souvent, des dizaines, si ce n'est des centaines de fois, un passage qui nous relate un des miracles de Jésus. Je crois que ce passage a beaucoup de leçons pour nous aujourd'hui. Ce passage contient en particulier ce qui me paraît être un des versets les plus désolants de la Bible. Et nous allons y venir tout à l'heure. En quelques mots, l'apôtre Jean situe le miracle qu'il va rapporter. Il y eut une fête des Juifs, il ne dit même pas laquelle, alors nous laisserons les commentateurs chercher à savoir quelle était cette fête. Peu importe, après tout, c'était une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Probablement pour deux raisons. La première, c'est qu'il était respectueux de la loi et qu'il observait les fêtes juives. La deuxième, c'était que c'était l'occasion de rencontrer beaucoup de gens et de se faire connaître. Et Jésus voulait se faire connaître à son peuple. C'était pour ça qu'il était venu. Et Jésus est donc monté à Jérusalem. Or, dans cette ville de Jérusalem, qui est, comme vous le savez, la ville choisie par Dieu pour y mettre son nom, la capitale d'Israël, la ville où se trouvait le temple, ce temple où les Juifs se rassemblaient pour adorer leur Seigneur, cette ville extraordinaire, cette ville qui était donc la ville où le peuple d'Israël devait servir Dieu. Il devait le servir d'une certaine manière. Cette ville possédait une muraille et plusieurs portes. Une de ces portes est appelée la porte des brebis. Pourquoi la porte des brebis? Parce que c'est probablement par cette porte que rentraient les brebis qui allaient être sacrifiées dans le temple. Cette porte était située au nord-est de Jérusalem, tout près du temple. Et tout près de cette porte se trouvait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui veut dire maison de miséricorde. Elle avait 5 portiques et sous ces portiques, nous dit le texte, était couché un grand nombre de malades. Et l'apôtre insiste pour montrer qu'il y avait vraiment toutes sortes de maladies. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas voir, d'autres qui marchaient difficilement, d'autres qui ne pouvaient pas marcher du tout, et qu'on devait amener là. Parce qu'il se passait de temps en temps quelque chose d'étrange, l'eau était agitée. Ici, nous avons quelques difficultés avec le texte. Le texte que je vous ai lu n'est pas accepté par tous les exégètes comme étant le texte véritable. Mais une bonne partie d'entre eux pense, je crois avec raison, que le verset 4 devrait être supprimé. Parce qu'il ne se trouve pas dans les manuscrits les plus anciens et les meilleurs. Il faudrait supprimer donc le verset 4 et même la fin du verset 3, à partir de qui attendait le mouvement de l'eau jusqu'à quelle que fût sa maladie. D'ailleurs, c'est justement la version seconde l'a dit en note que d'anciens manuscrits omettent ces mots. Alors nous les laisserons de côté, si vous permettez, non pas que je mette en doute la parole de Dieu d'aucune manière, mais je pense que ceux qui ont établi ce texte sérieusement, qui ont étudié les manuscrits qu'ils ont eus en main, ont de bonnes raisons pour nous dire que ce texte n'apparaît que dans certains manuscrits. Et par conséquent, il est douteux. Mais le reste n'est pas douteux. Et c'est sur le reste que nous voulons nous fonder pour chercher ensemble ce que Dieu a à nous dire ce matin. Il y a donc sous ces portiques des malades de toutes sortes, comme il peut y en avoir même parmi nous. Des gens qui souffrent du foie, ou de l'estomac, ou de la tête, ou des reins, il y a là des malades de toutes sortes. Certains sont venus d'eux-mêmes, d'autres ont été amenés par leurs amis. Et ils attendent un miracle. Est-ce que vous connaissez des malades qui n'attendent pas un miracle? Quel est celui qui, étant malade, ne désire pas être guéri? Ce désir d'avoir un corps en bonne santé qu'il a dans nos cœurs chaque fois que nous sommes malades, et qu'il le comprendrait. Et ces gens sont là parce que, effectivement, périodiquement, l'eau s'agite. Alors comment expliquer ça? Il est probable que c'était une source intermittente, et que ces gens pensaient que le premier qui se précipitait dans l'eau après que l'eau était agitée et était effectivement guérie. Maintenant, le texte ne nous dit pas si à chaque fois la personne était guérie. Le texte va nous dire autre chose. Le texte va nous montrer que lorsque Jésus s'occupe de quelqu'un pour le guérir, il est effectivement guéri. Et c'est quand même cela l'important. Toujours est-il qu'il y a là un homme dont la situation est dramatique. Un homme malade, écoutez bien, depuis 38 ans. 38 ans de maladie. Vous ne trouvez pas que Dieu exagère en laissant les gens malades aussi longtemps? Vous ne croyez pas que Jésus aurait pu venir un petit peu plus tôt, au début de son ministère, pour guérir cet homme? Mais Jésus ne l'a pas fait. Et Dieu n'a pas guéri cet homme. Parce que Dieu voulait le guérir précisément ce jour-là, et pas un autre. Dieu est souverain, et nous devons nous en rendre compte bien souvent. Nous traînons parfois des maladies pendant des années, nous espérons être guéris. Et puis un jour, Dieu guérit. Mais au jour choisi par lui. Et ce texte a quelque chose de formidable à nous apprendre. Dieu ne nous doit pas forcément la guérison, mes amis. Nous devons tout au Seigneur, mais il ne nous doit pas forcément la guérison. Et ici, Dieu a attendu 38 ans pour guérir cet homme. C'est long, 38 ans. C'est dur. Jésus l'ayant vu coucher, ils sont là, peut-être 50, peut-être 100 malades, peut-être plus. Mais celui vers lequel Jésus se dirige, c'est lui. Pas un autre, lui. Et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Comme j'aime les paroles de Jésus. Jésus ne parle jamais pour ne rien dire, et il parle toujours pour amener l'homme à réaliser quelque chose d'important. Bon, vous me direz, mais à première vue, la question de Jésus est tout à fait banale. Allez demander à quelqu'un qui est malade au milieu de nous, est-ce que tu veux être guéri? Il vous répondra oui tout de suite. Pourquoi Jésus pose-t-il cette question? Jésus pose ces questions en fonction de ce que sont les gens, de la situation de leur cœur. Et Jésus, j'imagine, a vu ce qu'il y a dans le cœur de cet homme. Et vous savez ce qu'il y a dans le cœur de cet homme? Il y a une profonde détresse, un grand désespoir. Je n'ai plus d'espoir. Voilà ce qu'il y a dans le cœur de cet homme. Je n'ai plus d'espoir. Et Jésus, par cette question, veux-tu être guéri, fait renaître l'espoir dans le cœur de cet homme. Comment quelqu'un lui parle de guérison? Il y a 38 ans qu'il est malade. Il y a des années qu'il vient et que ses amis l'amènent auprès de cette piscine de Bethesda. Ou alors qu'il s'y traîne, je ne sais, 38 ans. Mais Jésus sait qu'il est malade depuis longtemps. Veux-tu être guéri? Et la réponse de cet homme est désolante. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne. Vous entendez bien, je n'ai personne. Mes amis parisiens, il y a autour de nous des milliers de gens qui n'ont personne et qui ne nous ont pas encore trouvés sur leur route pour les aider. Vous vous ennuyez le dimanche? Allez visiter les malades dans les hôpitaux. Il y en a beaucoup qui n'ont personne. Que personne ne visite jamais. Nous sommes tellement occupés, n'est-ce pas? Je n'ai personne. Mais ce texte est d'autant plus désolant, mes amis, que la porte des brebis est la porte qui voyait entrer chaque année des dizaines de milliers de pèlerins venus à Jérusalem pour adorer leur Seigneur. Des dizaines de milliers d'hommes de foi, avec leur offrande, traînant leurs brebis. Et ils passaient à côté de cet homme qui, pendant des années, a attendu que quelqu'un s'arrête pour l'aider. Mais personne ne s'est arrêté pour cet homme. Personne. Occupé, trop occupé par les actes du culte. Ah, mes amis, ici, si les actes de notre culte, si les actes de notre service chrétien nous amènent à passer à côté de la misère des autres, par pitié, je préférerais que ce temple soit vide un dimanche matin et que vous soyez tous en train d'aider quelqu'un. Ou que les actes de notre service ne nous empêchent pas de répondre à la misère des autres. Sinon, à quoi ils servent? Ce verset le plus désolant de la Bible, « Seigneur, je n'ai personne. » Je n'ai personne. Pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, je devrais dire pendant que je m'y traîne, un autre descend avant moi. Un homme impuissant, malade, abandonné. Un homme seul. Seul dans sa détresse. Et mes amis, quand tout va bien, vous savez comme moi que vous avez beaucoup d'amis, facilement. On vient vous voir, on passe un moment ensemble, c'est agréable. Et quand vous êtes malade, et quand cette maladie dure, alors les amis s'éloignent, on se retrouve bien seul. Je pense à ce que quelqu'un me disait il n'y a pas très longtemps. Son mari était tombé gravement malade. Il avait un ami intime, mais depuis sa maladie, cet ami ne lui téléphone même plus. Ils sont pénibles, les malades. Ils prennent du temps. Ils parlent de leurs souffrances. Il faut les écouter. Il faut s'occuper d'eux. Ils sont pénibles, les malades. Mais ils souffrent. Et la compassion, mes amis, c'est un des attributs de l'amour. Je n'ai personne. Alors Jésus parle. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Voilà la réponse de Jésus. Je ne sais quelle est la réponse de Jésus à votre maladie physique ou à votre maladie spirituelle, mes amis. Je ne sais ce que Dieu a à vous dire ce matin. Mais je crois que Dieu a quelque chose à vous dire ce matin. Peut-être est-ce ceci, lève-toi et marche. Peut-être est-ce autre chose. Attends encore. J'ai quelque chose à t'apprendre dans ta maladie, dans ta souffrance. J'ai encore quelque chose à te dire que tu as besoin d'entendre à travers ces longs mois de souffrance qui t'attendent. Je ne sais ce que Dieu a à vous dire ce matin, mais je crois qu'il a quelque chose à vous dire. Et l'histoire de cet homme est remarquable à cet égard. Il nous apprend que Dieu guérit quand il le veut et comme il le veut. Et comme c'est frappant. Pourquoi Jésus a guéri cet homme et les autres? Qu'en a-t-il fait? Il ne les aimait pas? Si, il les aimait, mes amis. Mais il ne les a pas guéris. Et oui, Dieu agit ainsi. Je suis encore frappé par quelque chose. C'est que Jésus ne se fait même pas connaître quand il guérit cet homme. Écoutez la suite. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Ah, les bons apôtres. Évidemment, ils ont raison. C'est exactement ce que dit la loi. Jérémie 17, 21, par exemple, nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat. Et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Et ne faites aucun ouvrage. Ils ont donc raison. Cet homme ne doit pas, en principe, porter son lit. C'est la loi de Dieu. Les Juifs, qui sont ces Juifs? Le texte ne le précise pas, mais il semble bien, à la lumière des textes parallèles, qu'il s'agit de membres du Sanhédrin, ou de leurs représentants. Ceux qui connaissent la loi, et qui surveillent que les gens la respectent. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il y a une chose que, pourtant, les Juifs permettaient. C'était de porter un malade sur son lit. Mais si le malade se met à porter son lit, alors, c'est pas possible. Non, alors, le Talmud vous dit que on peut porter un malade sur son lit, mais surtout pas que le malade porte son lit. Ça, c'est intolérable. Ça ne se fait pas. C'est une désobéissance à la loi. Et c'est vrai. C'est une désobéissance à la lettre de la loi. Et cet homme, que va-t-il faire?
lui a confié l'autorité. La loi dit, tu ne porteras pas de fardeau. Mais celui qui l'a guéri, et qui a manifesté par conséquent une puissance prodigieuse, celui-là lui a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Bon, ça me suffit. L'expérience a beaucoup d'importance, mes amis. Peut-être allez-vous rencontrer aujourd'hui des gens qui vont vous dire, mais le christianisme, ça ne tient pas. Ils vont vous présenter toutes sortes d'arguments pour vous montrer que ça ne tient pas. Mais vous connaissez Dieu, vous le connaissez personnellement, vous le priez, vous l'entendez, vous vivez de la présence de Dieu. Alors peut-être que sur le plan des arguments, vous ne saurez trop que dire, mais Dieu agit dans votre vie, et ça vous suffit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Et je suis frappé par cela. C'est très important. Cet homme ne savait pas qui l'avait guéri. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu, ou plutôt Jésus, a demandé à cet homme d'avoir la foi? Ça, c'est une question importante. On dit souvent aux gens, vous n'êtes pas guéri parce que vous n'avez pas la foi. Est-ce que Jésus a demandé à cet homme s'il avait la foi en lui? Mais il ne l'a pas demandé, mes amis. Cette guérison n'est pas attachée à la foi. Il lui a simplement dit, veux-tu être guéri? Et cet homme lui a exposé sa détresse, son désespoir, et Jésus l'a guéri comme ça. Il ne lui a pas dit, aie confiance en moi, le Messie, je vais te guérir, non. Il lui a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Dieu est souverain. Et il peut guérir qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il a des raisons que nous ne connaissons pas toujours. Et les raisons, nous les comprenons un peu mieux plus tard. Mais je suis frappé encore par ce que la Bible dit au sujet de la guérison. Regardez l'histoire de Naaman, ce général syrien lépreux. Il y avait de nombreux lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée. Et qui a été guéri? Le Syrien. Pas ceux d'Israël. Et Jésus donne de profondes leçons par cela. Dieu est un Dieu souverain qui nous traite individuellement. Dieu ne travaille pas à la chaîne. Dieu vous aime tous. Dieu veut votre bien. Dieu veut votre salut. Mais il travaille individuellement. Il y a des conditions à remplir et il faut savoir se soumettre à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Pourquoi? Pourquoi cet homme était-il malade? Est-ce que ce texte nous permet de le dire? « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce que ce texte nous permet de dire en tout cas, c'est qu'il y a un lien certain entre le péché et la maladie. Incontestablement, si nous souffrons de maladie et de mort, c'est que l'homme a péché. Mais ce texte ne nous permet pas de dire beaucoup plus, sinon qu'il y a un risque terrible dans le péché. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Mais quelque chose de quel genre? Sur le plan physique ou sur le plan spirituel? Peut-être sur le plan physique, mais sûrement sur le plan spirituel, peut-être simplement sur le plan spirituel, nous ne savons. Ce qui est certain, c'est que le péché est toujours, toujours extrêmement dangereux. Et ce qui est certain aussi, et la Bible nous le montre bien souvent, c'est que par la maladie et la souffrance, Dieu nous forme. Dieu nous forme, mes amis. Et la maladie, elle sert souvent à Dieu, même si c'est une conséquence du péché. La maladie sert à Dieu pour former l'être humain, pour le rapprocher de lui. Et même lorsque cet homme est un homme droit, un homme qui cherche à plaire à Dieu. C'est exactement le cas de Job. Job n'a pas été malade à cause de son péché. Il a été malade à cause de sa justice. Parce qu'il aimait son Dieu. C'est pour cela qu'il a été malade. Mais Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans la vie de Job. Et Dieu a amené cet homme remarquable, cet homme dont la Bible dit, dont Dieu lui-même dit, c'était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu lui-même dit de Job, il n'y a personne comme lui sur la terre entière. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous peut recevoir de Dieu le témoignage que Job a reçu un jour. Eh bien, cet homme-là est tombé gravement malade. Et vous savez ce qu'il a dit ? Lorsque son épreuve a été terminée, il a dit, j'avais entendu parler de toi, Seigneur, et maintenant je t'ai vu. Ah, mes amis, comme Dieu forme les siens dans la maladie, dans la souffrance. Je crois avoir eu l'occasion de citer l'histoire de cette femme qu'un serviteur de Dieu était allé voir pour la réconforter. Savez-vous, cette femme, elle n'avait plus ni bras ni jambes, un tronc, et elle souffrait. Et cet homme me dit, lorsque je suis entré dans cette chambre, j'ai été tout de suite béni par l'atmosphère qui y régnait. Il y avait des versets bibliques partout sur les murs de la chambre. Et alors que je pensais encourager cette femme, c'est elle qui m'a encouragé. J'ai appris qu'elle écrivait. Elle s'était fait faire un appareil pour écrire avec tout son tronc. Vous entendez, sans bras, écrire. Elle écrivait presque, on peut dire, de tout son corps. Elle avait été le moyen de bénédiction pour des quantités de gens. Une femme qui n'avait plus ni bras ni jambes. Que Dieu lui-même avait placé dans cette situation-là. Vous entendez, Dieu lui-même. Notre Dieu est souverain. Mais Dieu se glorifiait dans ce corps torturé. Et Dieu peut se glorifier dans un corps torturé, et Dieu peut se glorifier dans un corps guéri. Et en l'occurrence ici, le Seigneur se glorifie dans un corps guéri. Et en même temps, parce que c'est toujours lié, la guérison du corps et le soin des âmes, Jésus parle, il retrouve cet homme dans le temple, et il l'avertit, fais attention mon ami, fais attention. Et je me rappelle ce que disait il y a quelques jours notre frère Philippe Richard, revenu de Côte d'Ivoire, et parlant de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, ces centaines de guérisons merveilleuses, et comment l'évangéliste parlait et disait, je préfère que vous ne soyez pas guéri, mais que vous soyez sauvé. Attention, la guérison du corps n'est pas tout. L'important et de loin le plus important, c'est que vous soyez sauvés. Et Jésus veut le faire comprendre à cet homme. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Fais attention, mon ami. 38 ans de maladie. 38 ans pour t'amener au désespoir, ou presque, et puis à la guérison. Mais attention. Attention. Cet homme s'en alla et commença à témoigner. Vous me direz qu'il n'était pas très sage. Parce qu'il commença à annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Vous me direz, voilà, cet homme est guéri, il a eu quelques ennuis déjà avec les représentants officiels de l'autorité religieuse, et puis il va les exciter. Il va leur dire, c'est Jésus qui m'a guéri. Au fond, il va dresser ses hommes contre Jésus. Il ne fait pas du bon travail. Est-ce que vous croyez qu'il ne fait pas du bon travail? Il annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Mes amis, quand on a été l'objet d'une guérison de cette sorte, on ne peut pas la garder. Il faut qu'on en parle. Et ce qui est merveilleux chez un nouveau converti, c'est qu'il ne peut pas garder pour lui ce qui s'est passé dans son cœur. Il faut qu'il en parle. N'empêchez jamais un nouveau converti de témoigner. même si ça vous paraît être un petit peu à contre-temps. Vous savez, la Bible dit qu'il nous faut insister auprès des hommes en temps et hors de temps. Alors, nous ajoutons, mais pas à contre-temps. Et je pense ici à un homme, je crois que c'était un homme d'État des États-Unis, qui avait l'occasion de rencontrer un jour un ambassadeur de je ne sais quel pays étranger, et son père, le père de cet homme d'État, se trouvait là. C'était un simple cultivateur, mais un homme bouillant d'amour pour son Seigneur. Et tout de go, sans prendre de gants, il rencontre cet ambassadeur et il lui dit « Est-ce que vous êtes chrétien ?» C'est des choses qu'on ne dit pas à un ambassadeur, n'est-ce pas? Ce n'est pas du tout diplomate de parler ainsi. Et il lui parle du Seigneur Jésus. Alors, l'homme d'État américain était dans ses petits souliers. Ça ne se fait pas de parler du Seigneur Jésus à un ambassadeur dans une réception. On n'est pas là pour ça, n'est-ce pas? Mais alors, mon cultivateur, lui, n'écoutant que son cœur qui bouillait, témoignait du Jésus à l'ambassadeur. Peu de temps plus tard, il mourut. Et quelque temps après, cet ambassadeur quittait le pays et avait l'occasion d'écrire une lettre à cet homme d'État américain dans laquelle il disait ceci. J'ai été terriblement marqué par la rencontre que j'ai eue un jour avec votre père. Depuis que je suis dans ce pays, c'est le seul homme qui se soit préoccupé de mon âme. Quelle leçon, mes amis, quelle leçon. N'empêchez jamais quelqu'un de témoigner du Seigneur Jésus, même si ça vous paraît tout à fait à côté, même si ce n'est pas le moment. N'empêchez jamais quelqu'un de parler du Seigneur Jésus, surtout si c'est son cœur qui parle. Il annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors bien sûr, Jésus va avoir des ennuis. Si vous témoignez de Dieu, vous risquez des ennuis, vos frères risquent des ennuis, et le Seigneur aussi risque des ennuis. Il en risque beaucoup. Vous savez ce que Jésus lui-même a dit un jour à un homme qui s'appelait Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens? Il l'a arrêté sur le chemin de Damas. Et Saul de Tarse s'est effondré. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Ces chrétiens, ils essayaient de témoigner du Seigneur Jésus. Et ils étaient persécutés. Et Jésus dit, c'est moi que tu persécutes. Et mes amis, chaque fois que vous rendez témoignage, véritablement témoignage de la part de Dieu, eh bien, vous exposez le Seigneur Jésus. C'est vrai. Le Seigneur Jésus va avoir des ennuis à travers vous. Il va avoir des ennuis. Mais il a demandé aux chrétiens de témoigner, de témoigner, de témoigner, en temps et hors de temps. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Évidemment, ces gens, ils ont une loi, ils veulent la respecter. Mais, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Ils disent à cet homme, tu n'as pas le droit de porter ton lit. Ont-ils raison ou pas? Oui, ils ont raison. Vis-à-vis de la loi, ils ont parfaitement raison. Mais alors pourquoi sentons-nous dans ce texte qu'ils ont tort? Mais voici pourquoi. Pourquoi a été institué le sabbat? Pour glorifier Dieu, j'imagine. N'est-ce pas? Dieu a invité les hommes de son peuple à s'arrêter un jour par semaine. Il a sanctifié un jour pour que son peuple puisse mettre à part ce jour pour louer son Dieu. Alors, ce jour a été vraiment institué pour glorifier Dieu. Et vous savez que les hommes ont une curieuse manie de travailler beaucoup. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille. On travaille tellement qu'on n'a plus le temps de s'occuper des choses de Dieu. Alors Dieu a dit, mes amis, ça suffit. Vous allez vous arrêter de travailler un jour complet pour vous occuper de ce qui me concerne. Alors vous allez cesser de transporter vos sacs pleins de bois ou pleins de fèves ou de haricots ou vos pommes de terre, etc. Je ne sais pas s'il y en avait à l'époque, mais enfin, vous allez cesser de transporter toutes ces choses. Vous allez vous arrêter pour louer votre Dieu. Le sabbat est institué pour glorifier Dieu. Quand vous parlez avec quelqu'un du dehors, des choses de Dieu, vous savez ce qu'il vous dit le plus souvent? Mais c'est une réponse qui revient, mais peut-être dans 60% des cas, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je travaille trop, mes amis. Je n'ai vraiment pas le temps, alors. C'est pour ça que Dieu a institué le sabbat. Pour que les hommes trouvent le temps. Mais ce sabbat, il était pour glorifier Dieu. Et quand Jésus lui-même invite un homme qui a été guéri à porter son lit, pourquoi il le fait? Pour glorifier Dieu. Et là, le sabbat a toute sa signification. Pour glorifier Dieu. Vous savez qu'il y a un jour qu'on a mis à part dans l'église chrétienne pour louer le Seigneur, c'est le dimanche. Alors vous venez le dimanche au culte. C'est une bonne habitude. Et vous vous dites, je ne manquerai jamais un culte, parce que je veux honorer mon Seigneur. C'est bien. Mais peut-être qu'un jour, en venant au culte, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans la détresse. Quelqu'un dont vous avez besoin de vous occuper. Alors Dieu va vous demander de vous occuper de cette personne plutôt que de venir au culte. Afin de glorifier Dieu. Afin de sanctifier ce jour. Bien que je croie, à la lumière du reste du Nouveau Testament, que tous les jours soient égaux, et que nous ayons à glorifier Dieu chaque jour. Néanmoins, il est bon de s'arrêter un jour pour louer son Seigneur. Et il y a une grande leçon dans ce texte. Il y en a une autre. C'est que ces Juifs qui appliquaient la loi tout simplement, ont porté un jugement hâtif sur cet homme. Comment? Il n'est pas au culte aujourd'hui. Il désobéit au Seigneur. Ne portons pas de jugement hâtif sans savoir pourquoi. Attention, c'est une bonne leçon que nous recevons aussi de ce texte. Et nous jugeons si facilement les autres. Tiens, oh, il n'a pas mis son beau costume aujourd'hui. Tiens. Et un curieux chapeau, enfin, on trouve toutes sortes de raisons pour critiquer les autres, n'est-ce pas? Mais nous portons des jugements tellement hâtifs, nous pensons faire respecter la loi, n'est-ce pas? Attention, ce texte nous apprend à ne pas juger trop vite. Prions, cherchons avant de juger, plutôt avant de discerner. Mettons notre main sur notre bouche comme l'Écriture nous y invite si souvent. Et le texte se termine par la réponse de Jésus. C'est curieux. Jésus ne répond pas tout à fait comme on pourrait s'attendre. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? On lui dit, mais tu fais travailler les gens le jour du sabbat, tu travailles le jour du sabbat, ça ne va pas. Jésus dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mais comment? Mais Dieu, il s'est reposé le septième jour. Et ce septième jour, c'est étrange. Mais il ne nous est pas dit qu'il y eut un soir et qu'il y eut un matin et que ce fut le septième jour. Le septième jour, il dure. Dieu est dans son septième jour. Dieu est dans son repos. Et dans ce repos, il travaille. Étrange Seigneur. Qu'est-ce que c'est le repos de Dieu? Qu'est-ce que c'est le repos de Dieu, mes amis? Dans son repos, mon Père agit, et moi aussi j'agis. Attention, nous risquons de nous tromper sur ce qu'est le repos de Dieu. Un repos de Dieu où on ne travaille pas n'est pas un repos. Le repos de Dieu, c'est le travail de Dieu. C'est le travail dans la foi, dans la paix, dans la joie du Seigneur. Faire les œuvres de Dieu. Voilà le repos de Dieu. Voilà le repos auquel Dieu vous invite le dimanche, mais pas seulement le dimanche, mes amis, aussi les autres jours. Entrez dans ce repos de Dieu par la foi. Travaillez avec Dieu vos dimanches et vos autres jours. Mais enfin, il y a quand même quelque chose de plus dans cette parole de Jésus. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Et les Juifs ne s'y sont pas trompés. Ils n'ont pas accepté cette parole, elle était intolérable. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et je suis frappé de voir que tant de commentateurs de la Bible n'ont pas compris à la lumière de textes comme celui-là que Jésus-Christ est Dieu lui-même, venu parmi nous. Il se faisait lui-même égal à Dieu, c'est vrai, il est Dieu. Le Seigneur auquel nous croyons, le Dieu auquel nous croyons est devenu un homme, un d'entre nous. Et il a accompli là dans son corps d'homme des œuvres que Dieu seul peut accomplir. Comment ? Faire lever un homme de 38 ans, depuis 38 ans malade, dont personne ne s'occupait. Voilà l'œuvre de Dieu, l'œuvre merveilleuse de Dieu. Ce Dieu qui travaille aussi dans nos cœurs. Et comme je lui demande ce matin qu'il nous ait aidé à comprendre qu'il est souverain et que dans ce repos auquel il nous invite, il y a beaucoup de travail pour nous, mes amis. Je vous invite à entrer dans ce repos de la foi qui est aussi le travail de Dieu avec Dieu. Et c'est là, dans le travail de Dieu avec Dieu, que nous expérimentons combien Dieu repose nos cœurs. C'est ce repos-là que Dieu veut par-dessus tout. Et c'est vrai qu'il est bon de s'arrêter un jour pour louer son Seigneur, mais c'est vrai que tous les jours lui appartiennent. Alors, mes amis, je souhaite que par la grâce de Dieu, il ne puisse pas se trouver un jour quelqu'un à votre porte tout près qui dise au Seigneur, « Seigneur, tu vois, je n'ai personne. » Peut-être cet après-midi même, il y a quelqu'un qui attend votre visite. Quelqu'un qui est peut-être en train de dire à cette heure, dans les larmes, « Seigneur, tu vois, je n'ai plus personne pour me visiter. » Alors, mes amis, si vous allez voir cette personne, l'aider, prier, chanter, que sais-je, mettre de l'ordre dans un appartement, alors vous serez dans le repos de Dieu. Alors, vous respecterez ce repos de Dieu. Alors, vous pourrez dire, comme Jésus a dit en quelque sorte, le Père agit, le Fils agit, et moi aussi. Guidé par